Bonsoir à tout le monde. Donc la pratique qu'on vient de voir avec le quartet Vaïti pose effectivement tout ce rapport, toutes les difficultés de pouvoir positionner des notions telles que la tradition et la modernité. Et en fait, l'angle que je vais aborder, c'est que on peut dire que les rapports entre tradition et modernité, on peut dire dans le Bel-Air, elles sont vraiment, en tout cas, ces rapports-là sont ambivalents. Et je vais tenter, avec la notion de créolisation, d'essayer de démontrer pourquoi ces rapports-là font problème. Et le Bel-Air est mobilisé dans diverses formes et qu'on peut résumer ou décliner entre tradition et modernité. Je pense qu'on va pouvoir y venir. Or, justement, c'est là qu'il y a méprise et malentendu de tous les côtés. Et sur les acceptions qui normalement aurait dû être très facilement concevable, qu'on puisse, puisque nous sommes des êtres humains, on peut imaginer qu'on puisse exprimer une tradition et une modernité du fait d'être humain. Et on serait donc sommé de justifier la tradition ou la modernité. Et ça paraît assez évident qu'on puisse présenter nos pratiques comme étant une tradition. Par contre, c'est un petit peu plus inadmissible et concevable d'envisager que ce serait vraiment qu'on pourrait imaginer qu'elle pourrait être quelque chose de moderne. Et on peut même imaginer que non seulement ce n'est pas admis, mais on estime que ça ne va pas de soi. Et qu'on pourrait même dire qu'il y a même un déni, puisque je pense que je pourrais en parler. Évidemment, vous pensez bien que le Bel-Air a une expression très moderne et très contemporaine. Et donc, il ne s'agit pas donc de révéler ce qui est, mais je pense que surtout, il convient de rechercher les racines du fait que on ne puisse pas envisager ce fait et qu'on ne puisse pas l'admettre. C'est ça le problème. Puisque, ma foi, dans la vie humaine, il y a toujours, en tout cas des sociétés, quand elles produisent des réalités culturelles, elles ont trait à la fois à la modernité et également aussi à la tradition. Donc la question, c'est pourquoi on se trouve devant un hiatus pareil nous concernant? Et pour commencer, je vais citer Glissant, qui était intervenu donc sur les discours sur le métissage et l'identité, et qui avait intitulé son intervention sur métissage et créolisation. Alors je cite, j'appelle créolisation cet enjeu entre les cultures du monde, ces conflits, alors ces luttes, ces harmonies, ces disharmonies, ces entremêlements, ces rejets, cette répulsion, cette attraction entre toutes les cultures du monde, bref, un métissage, mais avec une résultante qui va plus loin et qui est imprévisible. Je crois que tout à l'heure, vous avez évoqué ces aspects. Alors, ce qui m'amène donc, en fait, finalement, à poser ce rapport entre tradition et modernité sur l'angle où on va faire l'état de créolisation et les hiérarchisations des pratiques musicales et chorégraphiques. Alors, donc, voir trois points très rapidement, même si je vais les énumérer beaucoup plus que de rentrer dans le détail, mais au moins qu'on voit un peu la l'angle d'attaque sur lequel on peut positionner les choses, plutôt de chercher à définir la tradition et dire qu'on est une tradition, et à montrer que, justement, il y a des pratiques modernes dans le Bel-Air, plutôt de chercher à faire cela, plutôt de poser, justement, le fait que pourquoi ce n'est pas admis. Alors, la première chose, ce serait de repositionner, quand même, je crois, à un certain moment, on a failli en parler, c'est les réalités de créolisation de la Martinique. Il faut qu'on en parle du réel. Le deuxième aspect, c'est le Bel-Air dans tous ses états de créolisation. Et enfin, ces états de créolisation, mais tout à l'heure, je vais... pour qu'on ne mélange pas les mots, on a un gros problème avec ces mots, créole, créolisation, etc. Je dis pour l'instant état de créolisation comme ordonnancement et de hiérarchisation. C'est-à-dire que le fait qu'on a eu un certain nombre d'états de créolisation à un certain moment dans l'histoire, qui se sont positionnés, quand on remobilise nos pratiques, on aboutit finalement, en mobilisant ces prismes-là, on établit finalement des hiérarchies. Alors, les réalités de créolisation à la Martinique. Alors, le premier qui est très connu, je crois qu'on l'a évoqué avec notre enseignant créole, comment il s'appelle ?
Tony Mango.
Tony Mango. Donc, le principe qu'on positionne, donc, il y a la première chose, la langue créole. Et donc, il y a les créolistes, notamment des gens... comme Gilbert Gracian, on a eu un certain nombre de pionniers comme ça qui se sont intéressés notamment à ce que certains ont appris après une oralité. Donc, on aurait cette langue et que, donc en fait, c'est le premier niveau de créolisation qu'on ait connu, c'est-à-dire où on a eu cette langue à base lexicale française, qui a été en fait complètement développée par des Africains en sol américain et qui font des emprunts réguliers de principes à l'anglais ou à l'espagnol, mais globalement on commence à entrer et c'est pour ça qu'assez symboliquement on positionne cet état de créolisation, on voit bien l'origine aussi par rapport aux mots. Donc ça c'est le premier niveau. Ensuite le deuxième, c'est celui du être créole ou créolisé, une espèce de l'existence créole comme une ontologie du fait colonial. C'est un élément quand même important qu'il faut rappeler. Créole aussi veut dire aux Amériques, celui qui a été transplanté dans ce lieu, il devient créole, mais le premier créole, c'est le blanc créole. C'est lui d'abord qu'on appelle créole. Et donc, le principe a consisté à considérer qu'on a un monde créole particulier, qui est un monde où tout ce qui existait avant existe toujours, mais on n'a plus le même nom. Tout est rebaptisé. Donc, c'est comme ça que finalement, être créole, c'est quoi? C'est au niveau humain, c'est on devient créole sur le modèle du colon qui est le référent créole et qui donne le là de ce que représente un créole sur place. Ça veut dire qu'un noir, par exemple, un esclave, il devient créolisé et il se distingue du beau sale, celui qui vient d'arriver, l'Africain. Donc, c'est le premier travail, c'est qu'il faut, quand on arrive, on est créolisé. De même qu'on aura les chiens créoles. Mais un chien créole, ça n'a rien de spécifique. C'est un chien qu'on a transporté, qu'on a emmené, et il devient un chien créole. Donc on a la, de, du coup, on a la cuisine créole, on a tout. Et cet axe-là, il est important parce qu'en fait, je passe les détails parce que j'aimerais qu'on puisse en discuter après. Mais en gros, que la notion de créole renferme finalement plus un rapport entre l'Européen qui développe un système colonial particulier et établit une norme et s'installe un système créole où tout est baptisé comme étant créole par rapport à ça. Donc, les meubles deviennent créoles. Aujourd'hui, on va parler de meubles créoles, habitations créoles, c'est-à-dire les maisons créoles avec fierté, etc. Et ça correspond en fait à ce. Alors, ça, c'est cette acception-là, c'est une réalité d'organisation sociale fondée sur une ontologie de la colonisation. Le troisième aspect de créolisation, c'est la créolité, c'est-à-dire une créolisation idéaliste proposée par des penseurs et des littéraires, donc Charles Moiseau et Bernabé et Confiant, qui posent le fait que toutes les entités présentes, les cultures en présence, sont en mouvement de créolisation, mais carrément idéal. Ce que réfute Glissant, par exemple. Il y a ce qui fait qu'un Levantin, un Chinois, un Indien, a quasiment le même statut qu'un un Noir ou un Africain ou un Européen. Or, ce qui se passe, c'est que quand on vit en Martinique, le constat, c'est Guy Cabot-Masson dit qu'au contraire, on est dans la société de l'exclusif, où finalement, on a un apartheid non dit. Les béquets ne se mélangent pas avec les nègres, c'est pas vrai, sauf pour entrer dans les magasins. Les mulâtres, y a quand même, c'est moins marquant, mais c'est quand même là. Les Indiens, enfin, la musique indienne, par exemple, n'interfère pas sur les autres répertoires. Et ce que nous, on appelle les Syriens chez nous, c'est-à-dire les Levantins, ils parlent créole pour la relation commerciale, etc., mais on n'est pas... Et les Chinois ont mis notre grand Oyoren qui s'est marié avec une Martiniquaise. On n'est pas dans cette osmose. Donc, on est dans un idéal, d'ailleurs, de proposition identitaire. Beaucoup plus. Donc, cette notion de créolité, de ce point de vue, voilà. Mais je ne rentre pas dans le détail, je pense qu'on n'aurait pas là, mais au moins de retenir quand même que le réel autour de la créolisation, et c'est ces trois états-là. Donc, et qui, quand même, qu'il faut bien avoir en tête. Alors, l'autre point que je voulais voir avec vous, c'était que le bel est dans ces états de créolisation, c'est-à-dire les différentes facettes que le bel est a comme positionnement. C'est-à-dire que, d'abord, créolisation nègre. Des séries d'ethnies pendant trois siècles qui se rejoignent avec un taux de mortalité très très fort, non-reproduction déjà de population, mais surtout, évidemment, très peu de reproduction culturelle et sociale. Il faut bien comprendre. 300 000, plus de 300 000 déportés, à l'orée de l'abolition de l'esclavage, il en reste 75 000, il faut comprendre. Ce n'est qu'à partir du moment que l'abolition de l'esclavage arrive, qu'on commence à avoir une population qui reprend un autre sens. Donc, c'est toute la musique, anti-Belay ou proto-Belay, est une créolisation nègre en permanence. Alors là, du coup, ce dont parle Glissant avait certainement une réalité du côté des nègres, entre eux. Je crois que c'est là qu'il y avait le plus de créolisation. Ceci dit, si on fait l'analyse du côté des Européens, il y en avait aussi. Mais globalement, de comprendre ce volet-là. Ensuite, sur l'instrument central, le tambour belè, vous avez vu, en fait, voilà un instrument vraiment typiquement martiniquais et qui n'a... Ce sont des fûts de chêne. C'est du bois, c'est des fûts de vin qui rentrent en Martinique. Où avant, c'était les salaisons, on fait les choses comme ça, y compris on pouvait mettre des esclaves dessus pour les vendre dessus. Et ensuite, après, ça devient des fûts de rhum. Et après, le tonnelier, il le défait et il fait des tambours avec. Donc, c'est vraiment, pour bien comprendre quelle expression, le jeu qui est joué, bon, c'est-à-dire, vous pouvez sentir l'instrument après, vous allez voir, vous allez prendre l'odeur du rhum toujours dessus. Et en fait, peut-être que c'est pour ça qu'on aime bien le rhum dans les soirées belles, non, c'est pas vrai. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'en fait, cet instrument-là, voilà, tous les éléments ne sont pas du lieu, mais fondamentalement rendre compte de l'identité même du lieu. Les tyrans sont apparus après, ça vient des congas cubaines, donc avec la Caraïbe, donc on les a utilisés parce qu'on a trouvé ça utile. Et ça a changé complètement le jeu, mais on a trouvé ça complètement utile. Donc ça c'est pour l'instrument. Les danses en quadrille, on prend les quadrilles, on danse c'est du quadrille européen d'ici. Mais évidemment, ça n'a pas du tout la même symbolique. Ben, j'espère qu'on pourra en parler. On va utiliser toute une série d'éléments et qui vont comme ça, tous les éléments comme ça vont être des éléments importés, les chants qui circulent de Martinique, Guadeloupe, Guyane, même certains de Trinidad ou même de d'autres lieux. Et finalement, on fabrique la chose qui fait notre identité. Et le dernier point, c'est la question aujourd'hui, la pratique du belè aujourd'hui. Une pratique qui était paysanne, elle devient justement complètement citadine. Et avec des symboliques qui évoluent. La prégnance des femmes, toute une série de choses. Et le dernier élément, c'est que le développement du belè, c'est contrairement à ce qu'on puisse penser, est à la fois moderne et traditionnel. Parce que c'est avec l'avènement du groupe Belè Nou, qui était à la fois un groupe qui faisait de la pratique belè traditionnelle, mais surtout c'est par la recherche et notamment le travail instrumental. Donc avec des gens comme Edmond Mézir et d'autres, notamment à ASCPJ. Mais en fait, il faut comprendre que la tradition est née du modernisme. C'est exactement l'inverse. C'est le modernisme, et notamment même des aspects carrément scientifiques de rigueur, qui est venu des vents de la pensée de gens comme Gérard Louquel en Guadeloupe, 10, 15 ans avant, même un petit peu plus, qui ont posé le problème des théories endogènes et le positionnement dans la culture endogène comme modèle théorique pour réactiver les pratiques. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc, ce sont ces éléments. Enfin, donc, mon dernier point, c'est la question de ce que j'ai appelé, je parlais les états de créolisation. Je propose, pour qu'on n'ait pas de confusion, hein, que, bon, ça c'est pas pour faire un tenir un concept, hein, je sais pas, c'est que ça puisse être manipulable. Parce qu'on a créolisation, créole, qui a plusieurs significations, et en dessous, on a créolité. Et si on veut encore expliquer les choses et dire état de créolisation, on commence à ça. Mais je vais plutôt parler de créolition, je propose ça comme ça, c'est pas mieux, hein, mais c'est au moins l'idée, c'est de se dire qu'il y a des moments, on a des moments où effectivement, les trois moments dont on a parlé de cristallisation, qui sont une créolisation qui s'est cristallisée et qu'au bout d'un certain moment, avec l'état des relations qui sont en œuvre, ce n'est pas une cristallisation figée, mais c'est une cristallisation qui se réchauffe par l'intensité des relations et des mouvements qu'il y a autour, qui fait que cette cristallisation devient plus ou moins opaque ou transparente, un peu la notion d'opacité, et aussi d'élasticité aussi et de renouvellement. Et quand elle commence à se figer, quand baisse le niveau de relation qu'il y a entre les choses, c'est-à-dire dans notre cas, c'est-à-dire que c'est tout le temps alimenté, des fois même de l'extérieur, pour pouvoir produire le soi, eh bien, elle finit par se crisper et finalement imploser et disparaître. Donc, pour la langue créole, pour ce qu'on appelait la langue créole et le belet, ça a donné une absorption assez particulière de dire que, qu'on a la langue et culture créole. Du coup, on ne pouvait imaginer le belet comme un élément de la culture créole, donc inféodé à la langue. Or, il y a une autonomie entre la langue et les autres éléments culturels. Donc, ce qui fait un problème, c'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver avec une situation où, effectivement, ça fait problème. Le deuxième problème, c'est le niveau de l'univers créole et belet. On va dire que le belet, c'est la culture de l'habitation. Or, le réel, c'est pas cela. C'est-à-dire qu'au contraire, le belet naviguait entre le fait qu'on sortait de l'habitation, même à la période de l'esclavage, pour pouvoir pratiquer ce qu'on voudrait. Et par la suite, le belet va prendre son essor justement quand les gens vont sortir de l'habitation, même si c'est joué à l'habitation. Donc on a toujours un prisme qui fait qu'on lit une pratique qui est devenue complètement autonome, même historiquement c'est daté, c'est... Pourtant à chaque fois on la définit par rapport à la société d'habitation. Et donc, parce qu'il y a la société d'habitation, parce qu'on veut la ramener au monde créole. Enfin, donc, créolité et belet, tout est possible. Donc, ça a donné des choses assez incroyables en Martinique. On peut faire du belet, par exemple, mais comme on peut faire des métissages ou disons, c'est tout à la fois et passe les choses en même temps. Et donc, on va se retrouver, non pas avec la rigueur qu'on va retrouver, par exemple, chez Gérard Louquel ou Belenou avec Edmond Mondésir ou d'autres. Des groupes modernes, quand ils se montrent, ils font avec l'harmonie jazz, avec le jazz, avec d'autres apports. Et on dit que ça fait la richesse et ça fait avancer le belet. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas ce développement naturel que Césaire de Césaire parlait, pas de nature. C'est-à-dire que cette musique-là, normalement, elle a ses propres éléments pour évoluer dans sa modernité, normal. Elle n'a pas besoin forcément d'être inféodée à d'autres prismes. Alors, il faut bien entendre ce que je veux dire. Je dis nature au sens césarien du terme. Nature au sens que, quand il explique dans le discours sur le colonialisme, que le colonialisme a empêché une européanisation naturelle qui était déjà en cours. Ça veut dire que nous, on était prêts à jouer sous des instruments européens, mais pas qu'on nous impose, mais on pouvait le faire. On peut jouer, c'est ce qui se passe avec Belenou, ce qui se passe avec Gérard Louquel. Il fait du gros cas avec un piano à queue, un super piano à queue, et une musique très érudite, très, etc. Belenou, on joue de la basse, des machins. Il y a Vaiti, il y a un grand orchestre, etc. Donc, une espèce de européanisation naturelle, c'est-à-dire, disons, la possibilité de laisser ce que Glissant aurait bien voulu qu'il se fasse, c'est-à-dire de laisser, de toutes les façons, de permettre qu'il y ait toutes les expressions de tout monde, pour prendre toute la globalité, mais de chaque monde, chaque petit lieu de monde participe à l'évolution du monde, mais à sa façon. Donc, imposé par la force, finalement, ça rend le monde décadent parce qu'on a une monoculture qui, des fois, est justifiée soi-disant par par université, finalement, on n'y aboutit pas. Donc, finalement, je tenais à parler de ces états de créolisation pour montrer comment on se retrouve avec une rhétorique, même du côté des traditionalistes qui défendent ces pratiques, qui finalement interdit à ces pratiques leur modernité. Voilà, je vous remercie.